Bonsoir à tous et merci d'être là une nouvelle fois pour nous accompagner dans ces rencontres et ces discussions. Comme Sylvie l'a dit à l'instant, notre titre cette année est « Point de vue, les perspectives à l'œuvre ». C'est-à-dire qu'après nous être demandé l'année dernière ce qu'il en était ou ce qui se passait quand la littérature fait savoir, et avoir invité pour cela des écrivains, des penseurs, des chercheurs, des critiques, il était sans doute naturel de poursuivre ce questionnement en abordant la question des points de vue et donc des perspectives à l'œuvre. D'où parlez-vous ? C'est la question que nous posions dans les années 60-70 à qui prenait la parole. Il s'agissait alors d'interroger un socle idéologique ou l'arrière-fond d'une expérience auquel souvent d'ailleurs on ramenait le propos énoncé. Mais peut-on aujourd'hui... Peut-on parler depuis la littérature, parler adossé à ce socle-là, et qu'est-ce que cela voudrait dire ? En fait, non, je ne crois pas, nul sans doute n'est habilité à le faire à ce titre, mais ce que l'on peut faire, oui, c'est parler avec la littérature, cela oui, très, très certainement. Car la littérature offre bien un point de vue sur le monde, ou plutôt des points de vue. Car elle est diverse, elle est multiple, d'où le pluriel de notre titre, que j'espère vous avez remarqué. Et l'on ne saurait réduire la littérature à quelque unicité, encore moins à quelque pensée unique, bien au contraire. Mais elle pense, la littérature, on vient de l'entendre dans le propos de Sylvie, elle pense en effet, et j'aime à le dire ici, publiquement, ils pensent, les écrivains, dans leurs livres, ils n'ont pas cessé de le faire, contrairement à ce que l'on a pu lire et que vous avez peut-être lu récemment dans un grand quotidien du soir. La poésie pensive, selon Michel Deguy, la pensée littéraire, selon Gérard Massé, la rhétorique spéculative, selon Pascal Quignard, ce ne sont pas de vaines formules. Sauf que les écrivains ne pensent pas par discours, ils pensent dans leurs œuvres. Ce sont leurs œuvres qui nous donnent à penser et qui mettent le monde en perspective. Mais d'où parlent-elles donc ces œuvres ? Quel est leur lieu obscur ? Ce langage que Pascal Quignard compare souvent à une arme de jet, d'où s'élance-t-il ? Vers quelle cible ? Et comment ? Ou, si je reprends le petit texte que Sylvie et moi avons placé au seuil de notre programme, comment les écrivains voient-ils ce qu'ils donnent à voir ? Comment voient-ils ce qu'ils voient ? Ce sont ces questions que nous souhaitons aborder donc cette année, et au-delà du savoir et du non-savoir qui nous ont mobilisés l'année dernière, car il y a, me semble-t-il, un excès du voir sur le savoir qui ne se résorbe pas dans le concept, mais qui déborde dans les textes. C'est la vue, bien sûr, inépuisable. C'est le regard, insatiable. C'est l'attention, scrupuleuse. Mais aussi bien la vision, le rêve, l'hallucination. Une infinie production d'images, visuelles donc, et mentales. C'est dire aussi que point de vue ne signifie pas ici opinion. Il ne s'agit pas de savoir à quoi la littérature opine, à quel doxa, mais plutôt de mesurer ses écarts, ses effets d'inouï, ses inédits. À cet égard, chaque livre, du moins s'il en est vraiment un, ce n'est pas toujours le cas, offre de nouvelles vues, autres, diverses, différentes, il déconcerte, je dirais qu'il désopine. Je reprends là le néologisme d'un universitaire québécois, Pierre Popovic, que je trouve très juste. Les points de vue, donc, ce sont des manières de voir, c'est-à-dire, s'agissant de littérature, des manières d'écrire. Mais il sera aussi question dans nos rencontres, vous avez vu en regardant le programme, de manières de photographier, de filmer, de mettre en scène, de donner à voir. Et pour nous, critiques et lecteurs, de manière de lire. Manière de voir et donc de regarder. Et permettez que, en guise d'introduction à nos rencontres, je vous invite à une petite promenade étymologique. Ce beau mot de regard entre dans la langue française au Xe siècle, c'est-à-dire à peu près au moment où se forme la littérature en langue romane française. Regarder est issu de garder, veiller sur, prendre soin. Le munir d'un préfixe, regarder, c'est donc redoubler le soin. C'est avoir cure, se préoccuper de quelque chose ou de quelqu'un. On retrouve d'ailleurs ce sens originel dans « avoir des égards pour quelqu'un ». L'ancien français disait « esgarder » pour « regarder ». Regarder, c'est donc avoir des égards pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est en prendre soin, c'est le sauvegarder, le garder vivant. N'est-ce pas là, justement, ce que font les livres ? Retournant le mot, comme Georges Didier Huberman, dont j'ai plaisir à saluer la présence ici, qu'on entendra tout à l'heure, donc comme Georges Didier Huberman le fait dans son livre et dans ce beau titre, « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde », je dirais que l'écrivain accorde soin à ce qui nous regarde. Cette pensée du care, du soin, qui nous vient depuis quelque temps d'outre-Atlantique, n'est-ce pas en fait la littérature qui en a la première posé les jalons en refusant de modeler son verbe à l'utilitarisme ambiant, en s'écrivant justement à hauteur d'homme et de femme. L'allemand Warten, d'où vient garder, conjugue ici son sens au latin pour lequel regarder se disait spectare, que l'on retrouve dans aspect, perspective, spectacle, spectateur, mais aussi dans respect, lequel vient du latin respicere, respectus, regarder en arrière, être attentif, puis être attentif à quelqu'un, considérer, accorder sa considération. Il y a, me semble-t-il, en littérature quelque chose qui a à voir avec le soin et le respect, avec la considération du lecteur comme de l'objet traité, avec la considération de la langue, qui, je le dis souvent, n'est pas un simple outil, un simple véhicule, mais un matériau que les écrivains sculptent à leur façon. L'objet traité aussi est respecté dans cette affaire. Traité, c'est-à-dire qu'il est mis en œuvre, qu'il est haussé à la hauteur d'une œuvre. Considérer mérite également commentaire. Considérer, c'est regarder les étoiles, déchiffrer les constellations. Ça vient de Sidus Sidéris, hein, l'astre, la constellation. C'est, comme disait Mallarmé, écrire l'alphabet des astres. Or, cet étoilement du regard nous porte justement, me semble-t-il, au cœur de nos rencontres, car il y va à la fois de la séduction et de la catastrophe, de la passion, si vous voulez, dans les deux sens du terme, l'emportement et la souffrance. Commentaire, en effet, que désir et sidération ont même origine, et qu'il s'agit toujours des intensités de la vue et du regard, de leur expérience des limites. La langue italienne, et nous irons à l'Institut culturel italien un soir prochain, nous recevrons Valerio Magrelli vendredi matin, nous verrons un film d'Antonioni. La langue italienne fait bien entendre cette parenté entre désir et sidération. Desiderio, le désir, desiderio, c'est avoir perdu l'étoile, c'est donc faire l'épreuve de l'absence. On se souvient peut-être du poème de Nerval, El desdichato, hein ? Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Avoir perdu l'étoile, pensez aussi au Don Quichotte de Jacques Brel, ou l'avoir trouvé, c'est tout comme, c'est pareil, c'est à chaque fois chuter du ciel étoilé, c'est à chaque fois tomber des nues. La sidération tient, elle, son acception moderne du langage médical. C'est l'état de qui fait l'épreuve de l'anéantissement de ses fonctions psychiques. Et ce fut le mot employé en 1945 pour dire l'état hagard des survivants des camps de la mort. Hagard, comme on dirait sans regard, avec un A primatif, celui de l'air de quelqu'un dont on n'a pas pris garde, qu'on a pas vraiment sauvegardé. Mais là, je ne fais plus de l'étymologie, c'est moi qui invente. Hagard n'a rien à voir avec regard. Mais les mots, en effet, ont ce pouvoir parfois de dire plus que ce qu'ils disent. Quant à être sidéré, c'était pour les anciens subir l'action paralysante d'un astre. Et pour nous, modernes, c'est demeurer sans rémission dans la stupeur du désastre. Désir, désastre, c'est là à quoi la littérature s'affronte, les deux pôles opposés de son intensité, séduction et sidération, les épreuves qu'elle inscrit, qu'à son tour elle fait éprouver à son lecteur, les traces qu'elle sauvegarde. Dans L'œil vivant, Jean Starobinski écrivait en 1961, je cite, « L'acte du regard ne s'épuise pas sur place. Il comporte un élan persévérant, une reprise obstinée. Comme s'il était animé par l'espoir d'accroître sa découverte ou de reconquérir ce qui est en train de lui échapper. Ce qui m'intéresse, continue Starobinski, c'est le destin de l'énergie impatiente qui habite le regard et qui désire autre chose que ce qui est donné. » Et il poursuit un peu plus loin, « Le regard s'en tient difficilement à la pure constatation des apparences. Il est dans sa nature même de réclamer davantage. » Et encore quelques pages plus loin, « Une velléité magique, jamais pleinement efficace, jamais pleinement découragée, accompagne chacun de nos coups d'œil. Saisir, déshabiller, pétrifier, pénétrer. Fasciner, c'est-à-dire faire briller le feu caché dans une prunelle immobile. Fasciner, le mot de Starobinski, on en sait les superbes pages qu'en tire Pascal Quignard dans « Le sexe et l'effroi ». Fasciner, dit-il, contraint celui qui voit à ne plus détacher son regard. Et, plus loin encore, l'homme est un regard désirant qui cherche une autre image derrière tout ce qu'il voit. Ce sont donc de telles intensités que la littérature nous livre. C'est dans ce creuset que s'élabore sa puissance imageante. Mais comment ? Et comment les fait-elle éprouver ? À la différence des arts de l'image, il lui faut mettre des mots. Cette contrainte, je crois, est sa chance. Le regard, le désir de voir et la sidération modèlent le verbe comme, à l'inverse, le phrasé en dessine ou en restitue les tensions. Et c'est pour les rendre plus perceptibles que les écrivains se sont souciés, justement, des points de vue et des voix, et qu'ils ont déployé toutes sortes de techniques de la subjectivité textuelle. Que l'on pense au discours indirect libre de Madame Bovary, qui donne à voir les choses selon son point de vue, à la lutte mortifère d'un couple entièrement perçu à travers les yeux d'une petite fille, Maisie, dans « What Maisie Knew » de Henry James, traduit en français par Marguerite Yourcenar, au flux de conscience, stream of consciousness, étudié par son frère, le psychologue William James, qui donnera lieu aux inventions du monologue intérieur par Édouard Dujardin et James Joyce. Ce sont finalement toutes ces poétiques de la voix, pour le dire avec Dominique Rabaté, ces bandes sonores, pour reprendre cette fois la formule de Jean-Pierre Martin, qui scandent toute la littérature depuis le début du XXe siècle, de Céline à Louis-René Desforêts, de Beckett à Laurent Mauvignier. Et donc le point de vue, c'est la manifestation verbale d'un sujet dans le texte, et plus précisément, c'est d'abord un agencement de phrases. Plus que le regard qui se ferait verbe, c'est le verbe qui institue un regard, qui lui donne lieu. Deux remarques à ce propos pour finir. La première est que cette question, ceux d'entre vous qui enseignent dans la salle le savent bien, est devenue, depuis les années 60-70, un chapitre important des études littéraires, une question centrale de cette discipline qu'on appelle la narratologie, qui s'est développée autour de Gérard Genette, de Roland Barthes, de Tsvetan Todorov. On se demande qui parle dans un récit et quel est le point de vue adopté. S'agit-il d'un point de vue surplombant, omniscient, venu des étoiles ? Comme lorsque le narrateur dévoile à son lecteur les pensées les plus obscures de chacun de ses personnages, ou bien d'un point de vue subjectif, confondu avec les pensées et perceptions d'un personnage donné, ou encore d'un point de vue purement externe, réduit à inscrire les paroles prononcées et les gestes des protagonistes de l'histoire, tels que pourrait les enregistrer une caméra, ce qu'on appelle le behaviorisme. La narratologie, et Gérard Genette tout particulièrement, a inventé, on le sait, toute une terminologie pour distinguer ces différentes situations. Mais il n'est pas indifférent peut-être que, bien avant les efforts de théorisation formaliste, ce soit un autre penseur, Jean Pouillon, qui est le premier tenté de distinguer ces différents points de vue. Son livre, « Temps et romans », qui parlait alors de vision avec, de vision par derrière, date de 1946. C'est l'œuvre d'un littéraire, mais aussi d'un philosophe, d'un anthropologue, d'un psychanalyste, tout à la fois, membre du comité des temps modernes avec Sartre, de la revue L'Homme avec Lévi-Strauss, de la nouvelle revue de psychanalyse avec Jean-Bertrand Pontalis et Jean Starobinski, que j'évoquais tout à l'heure, aidé comme moi à Saint-Maur des Fossés à côté. Enfin. C'est dire que cette question n'intéresse pas que la littérature, mais que le travail de la littérature concerne ici l'ensemble des sciences humaines et sociales. Ce pourquoi, justement, nos rencontres s'ouvrent à ces disciplines chaque année dans un dialogue toujours plus fécond. Et ce qui est vrai ici des sciences humaines l'est aussi des arts, c'est ma seconde remarque. Comment, en effet, ne pas interroger les arts de l'image et de la scène dès lors que l'on parle de regard et de point de vue, les questions de cadrage, de focal, de plan, de scène, de tableau, etc., y ont leur place. Mais justement, ce sont des arts dont le narrateur est majoritairement absent, sauf à recourir à certains artifices comme ceux de la voix off ou du meneur de jeu. Et c'est là une différence sur laquelle peut-être il conviendra de se pencher. Ainsi, et pour ne prendre qu'un seul exemple, la caméra subjective n'est encore que très peu utilisée au cinéma, ou ponctuellement, pour faire éprouver une ivresse, une perception troublée ou une attention extrême. On peut penser à John Cassavetes, ou à ces mises en scène d'un voyeur, dans Fenêtre sur cour d'Hitchcock, d'un caméraman, dans le projet Blair Witch, ou encore d'un photographe dans Blow Up, que nous projetterons vendredi. Mais rares sont les films comme La Dame du Lac de Robert Montgomery, ou 50 ans plus tard, La Femme défendue de Philippe Harel en 97, qui tiennent la gageure de faire un point de vue subjectif entièrement assumé depuis le début jusqu'à la fin du film. Or, si l'on se penche sur cette question, on s'avise que les premières années du XXIe siècle se sont montrées très sensibles à cette question, dans le cadre du cinéma, bien sûr. Les tentatives et les expériences se multiplient, qu'il s'agisse de trouver des nouvelles formes, comme dans « Enter the Void » de Gaspard Noé, ou de chercher à codifier la vision humaine par l'image cinématographique, selon la formule que j'emprunte à un jeune étudiant, Florent Tité, qui a soutenu sur ce sujet un mémoire à l'école Louis Lumière à Lyon. Et il parlait notamment du scaphandre et du papillon de Julian Schnabel. Peut-être que cette question de la caméra subjective est une nouvelle frontière du cinéma. Et peut-être que nous en parlerons avec certains des cinéastes que nous avons invités, Eugène Green, Luc Dardenne, Ottar Yossiani. Les points de vue et perspectives, c'est donc tout cela, et c'est bien autre chose encore. Je n'ai pas eu le temps de parler de photographie ou de passage à l'écran, ce petit écran que nous avons dans nos maisons. L'un de ces petits écrans, il se multiplie. C'est les questions de champ et de hors-champ, de cadre. C'est aussi le territoire, le point d'où l'on voit ou que l'on voit. C'est aussi bien, au-delà de l'espace, les extensions dans les perspectives du temps, la mémoire, mais aussi les formes du présent. Et finalement, c'est à la fois l'esthétique et l'éthique, telles que l'écriture, qu'elle soit verbale ou visuelle, tente de les mettre en œuvre. Oui, décidément, c'est tout cela, les points de vue et les perspectives à l'œuvre. Et il me semble que tout ce que nos invités ont à nous dire, ça vous regarde.